RFI.
Alors, on dit quoi ?
Coucou, c'est Diara. C'est parti pour 50 minutes de notre émission. Alors, on dit quoi ? Cette semaine, on parle de droit civil, de droit coutumier et droit religieux. Nous abordons la question de l'héritage et de la succession des femmes africaines. Du patriarcat au matriarcat, du mariage civil au mariage coutumier, les questions d'héritage restent parfois délicates. Direction le Tchad pour voir ce qu'il se passe autour de ce sujet. Nous irons aussi à la rencontre de Mariam qui a mis en place un site internet tendance qui met en avant la femme africaine. Il y aura aussi la fake news de Valdez qui nous dira si oui ou non le cancer tue 10 Nigérians par heure. Et Anna vous fera découvrir un lieu tendance en Afrique pour les amoureux de la bande dessinée. N'oubliez pas, je kiffe aussi la musique, alors je vous propose de découvrir le jeune rappeur sénégalais Arsek et sa chanson Un jour ou l'autre. Programme chargé, on démarre tout de suite. Atianyudem, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarandiaï?
Une auditrice m'a contactée pour me parler d'un problème auquel elle et sa famille sont confrontés. Une histoire d'héritage où elle et sa mère se sont retrouvées à la rue suite au décès de son père au Tchad. Du coup, alors on dit quoi a eu envie de se pencher sur la question d'héritage et de succession justement des femmes. Je vous propose d'en savoir plus dans ce reportage de notre correspondant au Tchad, Junior.
Les filles et les femmes représentent plus de 50% de la population tchadienne. Le plus souvent, quand il s'agit de partager un héritage légué par un parent, celles-ci font l'objet de marginalisation. Selon le sociologue Mété Félix, les conditions d'héritage des biens sont discriminatoires à l'égard des filles au Tchad.
Il faut se le dire clairement qu'en dehors de l'absence d'un code civil des personnes et de la famille qui tarde à être adopté parce que les Tchadiens n'arrivent pas à s'entendre dessus, je dirais les conditions d'héritage des filles au Tchad selon les traditions, qu'elles soient animistes ou musulmanes, sont discriminatoires et inégalitaires vis-à-vis de la femme et de la fille. Parlons du milieu que je dirais où les coutumes sont animistes et chrétiennes. Selon les traditions, vous savez, la femme n'hérite pas, la fille n'hérite pas du tout. De nos jours, malgré l'évolution du code civil, il est difficile aujourd'hui de faire comprendre aux Tchadiens que la femme aussi a droit à l'héritage, ou la jeune fille a droit à l'héritage de son père. Parce que généralement, dans les familles où l'homme n'a pas d'homme, de garçon, à sa mort, eh bien, c'est son frère qui hérite des biens. Et il y en a qui continuent à le croire, même malgré aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, ces traditions continuent à avoir de la préhérence.
Telle est également la situation dans laquelle se trouve Gloria.
Mon papa est décédé il y a de cela 11 ans, oui. Et moi, sur la deuxième, nous sommes au nombre de 4. Nous sommes seulement que 4 filles, ma grande sœur, moi et mes 2 sœurs.
Cette époque-là,
mon papa avait 4 terrains et nous sommes au nombre de 4, toutes des filles. Qui veut dire, chaque enfant a un terrain, n'est-ce pas? Et 4 terrains, 4 filles. Donc, ils ont dit, au moment que mon papa est gravement malade, ils ont vendu l'autre le terrain de Bangor pour soigner mon papa avec. Et après ça, ils ont dit que l'autre, le terrain qui est à Mélésie, il y a un à Kone, ils ont dit qu'ils ne savent pas que l'autre, les musulmans ont pris les terrains. Quoi, on ne sait pas. Bon, actuellement, là, on est seulement qu'avec 2 terrains, celui de l'autre Fache à Mélésie et celui d'Abena ici. Donc, jusqu'à là, même là, on n'a pas encore pu résoudre l'autre le problème. Comme le juge nous a dit de venir vivre à la maison, nous aussi, on est venus vivre ici à la maison. Même jusqu'à là, actuellement, le problème est là encore. À la justice, on n'a pas encore fini de résoudre le problème, quoi. La maison, il y a plusieurs maisons là-bas où il y a plusieurs chambres. Ils ont mis ça en location. Et ma grand-mère est là encore. C'est ma grand-mère qui prend l'argent, là. Et quand la fois passée, nous étions allés pour demander les papiers, ils nous ont dit, s'il pleut ou il neige, même là, ils ne vont pas nous donner les papiers, là. Jusqu'à là, les papiers de la maison, là, ça y est, là, avec eux. Ils nous ont même pas encore remis ça.
Donc, vous n'avez pas droit parce que vous êtes des filles.
Mais ils disent que la tradition Kim, les filles n'ont pas droit à l'héritage. Que c'est les garçons seulement, que les filles sont des prostituées, des quoi, donc on n'a pas droit à hériter l'héritage de notre papa.
Pourtant, dans la législation tchadienne, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le juriste et anthropologue Yumpat Nansitak Beni.
Vous avez, par exemple, aujourd'hui, la constitution, la fameuse constitution de 4 mai 2018, qui vous dit clairement dans le titre 6, Les articles 161, 162, 163, 161 dit, jusqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles s'appliquent dans les communautés où elles sont reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle, n'est-ce pas, de succession entre filles et garçons, dans la tradition, c'est que jusqu'aujourd'hui encore, les gens ont peur. Même la fille elle-même, des fois, a peur. Parce qu'on lui dit que toi, tu n'es pas égal aux garçons. Donc, il y a une discrimination. Et alors que dans nos textes, nous disons clairement que ces genres, n'est-ce pas, de coutumes-là sont contraires. Donc, en principe, on doit interdire aujourd'hui, mais dans le village, même en ville ici, souvent, les filles sont marginalisées. Par exemple, dans le droit musulman, je pense que la fille a un tiers, le garçon, il a les deux tiers. Et ça tend, n'est-ce pas, à être vulgarisé dans la société. C'est ça que la société comprend, alors que sur le plan juridique, sur le plan du droit, c'est interdit, parce que les citoyens sont égaux devant la loi.
Face à cette maltraitance que subit la fille tchadienne, que faut-il faire? Le sociologue Mété Félix.
Moi, je crois qu'il faut faire appel au leadership, hein. Le leadership politique, le leadership traditionnel. Il va falloir prendre des décisions que les gens comprennent que ça doit changer. On a vu des pays où aujourd'hui les femmes ont les droits, ils décident, et nous au Tchad, nous sommes encore sous l'emprise de nos traditions. Et ça, je dirais, c'est un défi au leadership, c'est un défi à la 4e République qu'on a inaugurée en 2018. Ça fait partie des décisions courageuses à prendre. Je sais que ce n'est pas facile, mais qu'il faut faire comprendre qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à traiter la femme et la jeune fille comme du temps de nos grands-parents.
Mais en attendant, courage à toutes les filles tchadiennes et africaines qui se trouvent dans la même situation.
Merci beaucoup Junior pour ce reportage. Et pour en parler, je suis en compagnie de Giscard. Giscard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes étudiant en droit ici à Paris. Vous venez d'écouter avec nous ce reportage. Est-ce que ça vous étonne, cette situation au Tchad, où les femmes sont plutôt discriminées lors de questions d'héritage et de succession?
Non, la situation au Tchad ne m'étonne pas, parce que c'est pratiquement la situation dans beaucoup des pays d'Afrique subsaharienne. Ces pays-là, il faut dire qu'ils sont catégorisés en trois types. Il y a des pays où il y a la protection au niveau des législations, où on protège la femme, on place carrément le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais en pratique, ça pose des problèmes parce qu'il y a les poids des coutumes, les poids des traditions. Si vous prenez par exemple au Congo Kinshasa, c'est clairement dit dans le code de la famille, si vous prenez l'article 762, c'est dit clairement qu'il y a le principe d'égalité entre tous les héritiers. Donc c'est une protection au niveau des législations, mais après il y a la coutume qui vient pour empêcher l'application de la loi. Il y a la deuxième catégorie qui est composée des pays où la discrimination est consacrée par les textes. Là, c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est l'État qui doit garantir la protection, mais il y a certains États où, au niveau des lois, on fait la différence entre la succession pour les femmes ainsi que la succession pour les hommes. Vous prenez le cas du Kenya, par exemple. Il est dit que les femmes ne peuvent hériter que des biens du ménage. Vous voyez que c'est vraiment une discrimination qui est assumée.
Donc elles sont exclues de tout ce qui est héritage au niveau des terres.
Au niveau des terres, c'est exclu juste les biens qui sont liés au ménage. Ce sont les biens auxquels elles ont droit. Vous prenez aussi les cas du Burundi où on dit clairement que non, la femme est incapable de succéder. C'est assez inquiétant. Après, il y a la troisième catégorie où la question de l'héritage est renvoyée aux coutumes. Là, c'est la question du Tchad qu'on traite. Au niveau du code, il n'y a pas du code de la famille qui traite de la question. Du coup, ce sont les coutumes qui doivent prendre en charge les questions des successions. Et là, la femme est laissée entre les mains des traditions. C'est la situation la plus inquiétante. Et lorsque j'ai suivi les reportages, je me dis, ce n'est pas une situation exceptionnelle. C'est malheureusement le cas dans beaucoup d'États africains.
On a aussi le cas de la loi finalement religieuse où, par exemple, au Sénégal, c'est plutôt le droit musulman qui va primer.
Oui, il y a au niveau des législations, certaines législations qui sont influencées par les traditions, les autres aussi par les poids de la religion. C'est le cas notamment du Sénégal. Donc, vous avez une législation, les droits écrits, mais qui est la transposition pure et simple de ce qui s'est fait au niveau de la religion. Et là encore, il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. La femme n'hérite pas de la même manière que l'homme. Ce sont des situations de discrimination qui sont malheureusement légalisées.
Donc finalement, le droit civil, même s'il est réel dans le pays, même s'il existe dans le pays, est très peu appliqué.
Oui.
On a aussi le mécanisme du droit africain et la Convention des Nations Unies qui pourtant régit un petit peu cette question.
Oui, c'est là les plus grands soucis, que ce soit pour toutes les catégories. Il faut savoir que les États africains ont souscrit des engagements sur le plan international et ces engagements-là, j'ai pu citer par exemple la Convention des Nations Unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Mm-hmm. Cette convention-là pose clairement les principes d'égalité.
Le Tchad l'a ratifié.
Le Tchad l'a ratifié en 1995. Mm-hmm. C'est donc un engagement international. Mm-hmm. Et même au niveau de la constitution tchadienne, on prévoit la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et même par rapport à la coutume, la constitution tchadienne est très claire. Elle dit clairement que les coutumes contraires à l'ordre public, les coutumes discriminatoires ne peuvent pas appliquer. Mais là, c'est au niveau des textes.
C'est au niveau des mentalités aussi.
L'application pose problème parce que notamment, il y a la mentalité, il y a l'aspect sociologique. La population n'est pas préparée à accepter ça. La population est encline à respecter les traditions, la coutume qui est les droits écrits, malheureusement.
Mais on voit quand même qu'au niveau des États, juridiquement, il y a des évolutions au niveau du code civil. Juridiquement, il y a plusieurs projets de loi qui sont en cours pour essayer de protéger notamment les veuves quand leurs maris disparaissent.
Oui, il y a ces mouvements-là d'émancipation de la femme, ça s'inscrit dans les mouvements de l'émancipation de la femme. Ce n'est pas seulement dans les domaines des successions, il y a les domaines du travail. Dans beaucoup de pays africains, les femmes ne peuvent pas travailler sans l'autorisation de leur mari. Donc ce mouvement-là global qui fait en sorte que, avec les pressions ou bien l'incitation internationale, les États sont obligés d'ajuster leurs droits internes. Et c'est dans ce mouvement-là qu'il faut inscrire les projets de loi visant à émanciper la femme sur le plan de la succession.
Alors, Giscard, vous restez avec nous. On va prendre des auditeurs en ligne qui nous appellent. Ils sont nombreux. On va commencer. Florent, bonjour. Vous êtes un jeune Tchadien. Vous nous appelez de N'Djamena. Bonjour. Vous souhaitez apporter vous aussi votre témoignage à cette question d'héritage et de succession des femmes tchadiennes.
Ouais, merci de m'avoir accordé la possibilité de parler de ce fléau. Je l'appelle fléau parce que c'est la réalité que nous vivons dans notre pays, particulièrement le Tchad. Vous allez voir que beaucoup de mes sœurs, beaucoup de mes mères souffrent de cela et déjà, ils font partie de la famille, étant que ce soit femme, garçon, ils font partie de la même famille dont le père est le père de la famille. Alors, au décès du père, tout le monde a le droit d'hériter parce que il y a même les lois de la République qui protègent, qui mettent les femmes comme les hommes en égalité. Mais dans la pratique, on se rend compte que la femme n'a pas pratiquement droit à l'héritage de son père après le décès de son père. Et vice versa, les raisons sont que la femme devrait se trouver un mari et qu'elle intégrera une autre famille, mais que l'homme restera dans la famille et qu'il pérennisera la famille. Donc, ce sont des raisons qui n'ont pas de sens, qui sont avancées. Et franchement, les femmes dans ce pays souffre à cause de cette question d'héritage. Imaginez dans une famille où l'aîné est une fille, par exemple. Mm-hmm. Même pour administrer les biens de son père, on ne lui donne pas la possibilité parce qu'on dit que c'est une femme. Étant donné que c'est elle l'aîné et qu'on dit que dans une famille, quand le père part, c'est l'aîné qui doit administrer les biens du père pour gérer les cadets avec. On se retrouve avec des filles qui se retrouvent à la rue juste parce que elles sont filles et que au décès de leur père, elles n'ont pas le droit à l'héritage. Et franchement, ça nous fait souffrir dans ce pays. Et surtout, imaginez par exemple moi qui suis un chrétien. Ma religion dit que l'homme et la femme sont égaux. Mais vous allez voir que vous allez trouver même ceux qui prônent cette égalité-là, qui pratiquent ces choses. La loi donne des il y a des lois qui mettent ces deux couches là en égalité, mais quand la pratique arrive, ça fait complètement le contraire. L'État aussi face à cette coutume est impuissant parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs cas qui sont traduits à la justice, mais qui finissent par être rangés dans les oubliés, dans les tiroirs, et les filles en souffrent. Et merci parce que vous nous avez donné l'opportunité de dire ça à haute voix. Et merci parce que vous mettez aussi la lumière sur cela.
Merci Florent.
C'est ce que moi je pourrais apporter par rapport à la situation dans mon pays, le Tchad.
Merci Florent. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Est-ce que vous pensez que c'est la mentalité peut-être des Tchadiens qu'il faudrait essayer de changer?
Oui, parce que tout part de la mentalité. Si notre mentalité ne change pas, on ne pourra en aucun cas trouver une solution à cela. Tout ce que moi je conseille aux Tchadiens, c'est de comprendre que la fille comme la femme est aussi membre intégrant de la famille. Alors tout ce qui va avec la famille concerne directement la fille et le garçon. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Aujourd'hui, ça tombe dans le problème du genre. Et ça fait que c'est difficile. Même dans les couches étatiques, vous allez voir que les femmes sont représentées à une minorité parce que tout est parti de la coutume. Donc, qu'on arrive déjà à voir que la coutume n'est pas mauvaise en ce sens que si on essaye d'utiliser tout ce qui est positif dans la coutume, ça avance notre pays. Mais si on va utiliser seulement parce que c'est la coutume, je pense qu'on ne pourra pas avancer.
Merci beaucoup, Florent, pour ce témoignage. On va également prendre en ligne Élie, qui est sociologue. Élie, bonjour.
Bonjour, Deborah.
Élie, on vient d'entendre le témoignage de Florent qui nous parle de ce côté coutumier qui est très présent au Tchad. Il nous conseille peut-être aussi de prendre le côté positif de la coutume et d'essayer de l'allier à quelque chose qui pourrait faire évoluer les mentalités tchadiennes.
Oui, malheureusement, je ne voudrais pas être négativiste, mais dans la plupart de mes coutumes, la femme n'est pas bien loquée, la femme n'est pas reconnue en tant que telle comme égal à l'homme, malheureusement, c'est ce qui fait que nous vivons cette situation actuellement. Maintenant, nous devons beaucoup plus nous tourner vers les droits positifs de la législation en vigueur. Malheureusement, le code de la famille n'est toujours pas adopté au Tchad, il est toujours rejeté, le débat n'en finit pas. Et nous savons que c'est dû à cause de cette tradition donc, qui fait que les intérêts des uns et des autres sont menacés et ils ont intérêt à ce que le code de la famille ne voit pas le jour.
Et Elias,
malheureusement, c'est le cas.
Elias, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a un moment donné dans la société tchadienne, cette question a fait débat et surtout il y a eu des changements?
Oui, absolument. Ce sujet a fait débat dans le cadre du code de personnes de la famille. Et comme je disais tantôt, il a toujours été rejeté. Nous prenons un autre paramètre qui est l'éducation. Vous savez que le taux d'analphabétisme est vraiment très élevé au Tchad. Nous sommes à 118% d'analphabète. Dans le reste, qui est éduqué, qui représente 28%, 22%, je ne me trompe pas, ne pourra pas s'imposer. Et si les ténors qui dirigent le pays, si je peux le dire, sont beaucoup plus tournés vers la tradition. Et donc, voilà à peu près comment les choses se passent. Et donc, nous ne sommes pas prêts de voir demain la vraie égalité prônée dans le texte entre l'homme et la femme ici au Tchad, notamment en matière d'héritage. En matière d'héritage, je crois que nous sommes encore loin de faire acte justice.
Choses, en tout cas. Merci beaucoup pour votre appel, Élie. On a également en ligne Wesline qui nous appelle de N'Djamena, qui se trouve au Tchad. Wesline, bonjour.
Bonjour.
Alors, que vous évoque cette question d'héritage et de succession des femmes?
En fait, c'est un problème très crucial. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes arrivés à une ère où il faudrait également faire le mixage des choses. Il ne faut pas seulement s'intéresser aux coutumes et à la religion qu'il faut marginaliser la femme. Non, il faut également donner la chance, ou cette opportunité à la femme de pouvoir prendre des choses en main. Donc, le problème de l'héritage, nous le faisons au quotidien. Quand un monsieur décède dans une famille, généralement la famille intervient pour prendre soit tous les biens du monsieur, soit si c'est une famille où il n'y a seulement que des filles, voilà, la famille s'en accapare, ou s'il y a un garçon, même s'il est bien chanté de la famille, il hérite les biens de son papa. Parce que selon la coutume, soit selon la religion, la fille, le coup, ça n'a pas les capacités de gérer en fait les biens d'une famille. Et que elle, en fait, après le mariage, elle rejoint un autre homme, donc elle fait partie d'une autre famille, alors que l'homme reste, mais se marie à une autre femme et fait avancer en fait, la génération de la famille. Mais personnellement, je vois pas de mal, parce que on reconnaît également d'une part l'égalité de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme. Donc pourquoi ne pas laisser la latitude aux femmes également de gérer les biens d'un homme, puisqu'on constate également dans certaines familles où ce sont les femmes qui sont les chefs de famille. Et cette question-là, j'ai beaucoup intéressé, j'ai suivi le reportage et ça m'a beaucoup intéressé, puisque c'est un sujet où on en parle rarement dans les médias nationaux.
Wesleyne, juste une question. Vous y croyez-vous à un changement ou à une évolution peut-être des mentalités au sujet de cette question de partage, d'héritage et de succession de la femme tchadienne?
J'espère bien, puisque avec les associations qui mettent du jour au lendemain pour la lutte contre voilà, la marginalisation de la femme, ou soit pour l'autonomisation de la femme, j'espère avec les démarches que ces femmes sont en train de mener, un jour nous allons arriver à une phase où la femme peut également hériter les biens de son mari, soit les biens de son père.
Merci beaucoup pour votre témoignage et votre appel. Et à très vite, Wesleyne. Giscard, on vient d'entendre plusieurs témoignages qui finalement disent un petit peu la même chose au sujet de cette discrimination et cette inégalité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces sociétés qui prônent, elles, une société matrilinéaire où finalement la filiation passe par la mère, une transmission notamment à ses enfants par le nom ou alors même tout simplement son héritage?
Oui, je pense que ce sont les sociétés qui donnent une certaine importance, valeur à la femme. Et je pense que ce sont les sociétés, même si elles ne sont pas très nombreuses à travers l'Afrique, mais je pense qu'elles existent.
Oui, elles existent. On a, par exemple, en Guinée-Bissau, sur l'île d'Orango Grande, eh bien, dans cet archipel, au large de la Guinée-Bissau, eh bien, les femmes tiennent un petit peu le rôle de chef de famille. Voilà, elles s'occupent des dépenses, elles s'occupent des lois, elles répartissent et elles possèdent les terres. Et bien entendu, quand il s'agit d'héritage, ce sont elles qui héritent. On a l'exemple du Ghana, voilà, en faisant des recherche, on a trouvé aussi un autre pays, voilà, une tribu Akan, où d'ailleurs c'est la principale communauté matriarcale d'Afrique, où les femmes héritent totalement et héritent notamment de la part de leur oncle.
Oui,
donc ça existe.
Ça existe et cela vient démentir tout préjugé selon lequel la femme ne serait pas naturellement apte à diriger. Je pense que c'est un point à souligner et on peut s'inspirer. Moi, je pense que la solution se trouve au juste milieu, ce n'est pas qu'il faut écarter les hommes pour...
Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise société, il faut combiner les deux.
Il faut combiner, il faut partir sur les principes d'égalité et il faut que l'État puisse investir parce que rien ne peut se faire sans l'État. Mm-hmm. Là, nous avons entendu les interventions des auditeurs qui parlent des poids, des coutumes, mais cela ne peut jamais changer sans que l'État puisse prendre...
Mais on voit que l'État essaye de mettre en place des codes civils et des lois, en tout cas, qui empêchent la discrimination des femmes dans les pays africains.
Je pense que c'est une première étape, mm-hmm. mais il faut vulgariser les lois, parce qu'il y a un problème des connaissances des lois au niveau
de l'application.
Il faut que l'État puisse investir, notamment dans l'éducation, mm-hmm. parce que tous ces préjugés-là commencent dès l'enfance. Mm-hmm. Si l'État s'investit pour que, dès l'enfance, les filles et les garçons puissent déjà enlever de leur tête ces préjugés-là faits contre les femmes, mm-hmm. je pense que la situation pourra changer à long terme. Il y a aussi les associations qui sont très importantes dans cette mobilisation, mais aussi les aspects juridiques. Je pense parce que c'est une question qu'on a tendance à ignorer, alors que ce sont des véritables outils que les femmes au niveau de l'Afrique peuvent utiliser, notamment à travers les associations pour revendiquer leurs droits, que ce soit sur le plan interne et en cas de défaillance, aller peut-être au niveau africain. Il y a par exemple la Commission africaine des droits de l'homme, mm-hmm. qui est un cadre pour inciter les États à faire des réformes nécessaires. Il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est aussi un bon cadre. Je pense que ce sont les mécanismes qui sont ignorés, pourtant qui sont là pour faire avancer les choses et qui peuvent réellement faire avancer les choses en intimant aux États les ordres de changer leur législation pour se moderniser en quelque sorte, se mettre au diapason de tous les autres États qui appliquent l'égalité entre les hommes et les femmes.
J'ai cité deux seuls pays africains, le Ghana et la Guinée-Bissau, en tout cas à ma connaissance.
Il y a aussi le Congo.
Il y a
le Congo Kinshasa, il y a la province qu'on appelle le Congo central. Mm-hmm. C'est une tradition matrilinéaire. Mm-hmm. Il y a aussi, je pense, au niveau du Kasaï, mm-hmm. une tribu qu'on appelle les Lélé, mm-hmm. Chilélé, alors les Lélé, mm-hmm. c'est une tribu aussi matrilinéaire où la femme a un véritable pouvoir. Et je pense que la femme a toutes les capacités, autant que l'homme, de diriger, de succéder et de projeter l'avenir, d'être maîtresse du jeu. Ce n'est pas une question congénitale. Non, la femme n'est pas congénitalement inférieure à l'homme. Non, ce sont des préjugés.
Et ce sera les mots de la fin. Merci à vous, Giscard, d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur cette question du droit et de l'héritage et de la succession en Afrique et particulièrement au Tchad.
Merci beaucoup.
Et samedi prochain, ne ratez pas votre émission Alors on dit quoi sur RFI, une émission spéciale enregistrée à Bamako, au Mali. Nous ferons un focus sur les jeunes start-up du pays qui partent à la conquête de nouveaux marchés. Maria d'Orange Blossom.
Alors on dit quoi ?
La femme encore, la femme toujours. On va voir que le digital contribue fortement à nous valoriser avec cette initiative de la semaine. Alors on dit quoi ? À promener ses micros à Paris à la rencontre de Mariam, fondatrice du site Digin. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Alors vous avez mis en place un site internet dédié aux actualités lifestyle sur Paris, un site qui s'appelle Digin. Racontez-nous un peu comment est née l'idée de ce projet.
Digin, c'est en fait l'aboutissement de mes envies d'il y a maintenant presque trois ans. C'est-à-dire que je suivais pas mal de blogueuses lifestyle afro-parisiennes, mais pas que. Et en fait, j'ai toujours eu une petite appétence pour tout ce qui est rédaction et blog. Et en fait, j'ai eu aussi envie d'apposer un peu ma patte et de sortir un peu un espèce de journal intime, pas si intime que ça au final, qui traitait de tout ce qui était actualité afro sur Paris. Donc c'est à la fois donc, dans les événements, mais aussi et beaucoup de portraits de femmes, de projets qui sont faits par des femmes, mais pas que, mais essentiellement. D'où le nom du site qui s'appelle Digin, donc qui veut dire « femmes en Wolof ». C'était un peu pour leur rendre hommage et du coup donc ça m'a donné l'envie de le faire. Et en fait l'idée c'est vraiment de présenter des portraits de femmes qui ont des projets basés autour de la sororité, autour de voilà tout ce qui est thématique afro en France mais aussi ailleurs, de montrer un autre visage de la culture africaine sur Paris, que ce soit via les événements, mais aussi ça peut être que Paris, je dis Paris parce que je vis sur Paris, mais ça peut être aussi ailleurs. Donc sur le site, on a aussi, par exemple, un espèce de carnet de voyage de mon dernier voyage qui était à Dakar, où j'ai posté différentes bonnes adresses pour celles et ceux qui voudraient s'y rendre, avec les photos qui vont avec.
Et quelle image, finalement, de la femme africaine souhaitez-vous véhiculer à travers ce projet ?
J'ai pas vraiment d'image à véhiculer, on va dire que c'est vraiment présenter un scope général, parce que les gens ont tendance en fait à associer la culture africaine essentiellement aux axes. Enfin, c'est un peu réducteur ce que je dis là comme ça, mais C'est un peu ça, enfin du moins c'est l'impression que j'ai eue. Mmh. Et j'ai eu envie en fait d'ouvrir un peu ce scope, d'ouvrir un peu les chakras et de présenter vraiment, vraiment toutes les facettes de la femme africaine parce qu'il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs. Enfin, on n'est pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes centres d'intérêt. Et l'idée, c'était vraiment de présenter au travers de ce blog tous les portraits que j'ai pu rencontrer. Durant toute cette expérience.
Parlez-nous justement d'un des portraits de femmes africaines qui vous a vraiment inspiré, qui vous a vraiment marqué, Mariam.
Un des premiers portraits que j'ai pu faire, c'était Jacqueline, la créatrice du guide de l'Italie africain. Mm-hmm. Donc le premier et le deuxième qui est sorti récemment, d'ailleurs j'ai rédigé un article là-dessus. Ça a été une de mes premières rencontres et en fait, ça m'a plutôt bien inspirée. C'est-à-dire qu'au travers de ce guide, en fait, on faisait un peu la même chose, sauf que moi, c'était un peu de manière digitale et beaucoup moins poussée, mais c'est-à-dire qu'à travers son guide, elle ouvrait vraiment le côté Afrique à Paris de manière vraiment générale, donc à travers de bonnes adresses, à travers aussi des adresses de stylistes, de tissus, de portraits. Son deuxième guide va beaucoup plus loin en présentant vraiment des portraits d'afro-parisiens. Son parcours est assez inspirant et ça reflète un peu également ce que j'essaie de projeter dans mon blog. Et ça a été un des portraits qui m'a le plus marqué. Après, il y a eu d'autres articles, notamment sur le magazine Web Waya, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un magazine pareil, qui fait un peu l'éloge de la femme noire en général, de manière un peu différenciante et beaucoup plus artistique. Et notamment le Sisterhood, c'est une sororité de femmes afro qui a pour objectif voilà, de présenter la culture féminine et la culture afro au travers de voyages, mais pas que.
On l'a dit tout à l'heure, votre site internet se nomme Digen pour femmes en Wolof. Vous estimez que la femme africaine n'est pas finalement assez mise en valeur ?
Je pense qu'elle l'est de plus en plus aujourd'hui. À l'époque où c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2016, où j'ai ouvert ce blog, elle commençait à vraiment l'être, mais je pensais qu'elle n'était pas assez à mon goût, et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce blog. Mais je pense qu'elle commence à l'être de plus en plus et qu'on arrive de plus en plus à s'affirmer et justement à s'imposer en fait dans l'univers parisien, dans le milieu parisien et le milieu français et international en général.
Et une dernière question pour conclure, Mariam, est-ce que vous avez un message à adresser à la jeunesse africaine ?
De continuer à toujours briller, c'est-à-dire que là on arrive à un moment où effectivement on est un peu sous les feux des projecteurs, la culture afro en général, et c'est de faire toujours tout ce qui est possible pour que ça dure, pour que ça continue. Le moindre projet, il faut le mettre en place, la moindre idée, il ne faut pas l'abandonner, enfin voilà, c'est d'aller toujours plus loin et de s'écouter tout simplement.
Merci infiniment Mariam, rappelez-nous alors l'adresse de votre site internet pour que nos auditeurs puissent y faire un tour et découvrir pas mal de sujets intéressants, culture, mode, vie, inspiration.
Alors c'est digen.fr ou .com, digen ça s'écrit digeugeune.com.
Merci beaucoup Mariam.
Alors on dit quoi ?
Bonjour. Je suis Ababacar Thiam, jeune entrepreneur sénégalais évoluant dans les domaines de l'agrobusiness et de la gestion des déchets. Le message que je lance à la jeunesse africaine, c'est tout simplement de croire en leur potentialité, de croire en leur continent, mais aussi de s'impliquer activement au processus de développement de leur continent. L'Afrique est un continent jeune, un continent d'avenir et qui croit en sa jeunesse. Je vais reprendre les propos de Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, qui disait que « Vous n'êtes jamais assez jeune pour diriger, vous n'êtes jamais assez jeune pour matérialiser. En fait, ce en quoi vous croyez, on a l'habitude de dire que le futur appartient à la jeunesse. Il ne vous appartient que lorsque vous vous en emparez. » Ce qui sont des propos assez importants, assez forts pour la jeunesse, pour qu'elle puisse se former davantage. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'une jeunesse consciente, responsable, mais surtout intelligente. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis à relever. Et ces défis-là, nous devons les assumer et les relever. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme le disait Frank Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et nous, en tant que jeunes Africains, notre principale mission, c'est d'arriver au développement de l'Afrique. Une Afrique de paix, une Afrique de prospérité.
Merci beaucoup pour ce beau message. On parle, mais agissons comme vient de le dire Ababacar. Il faut s'impliquer et surtout croire au potentiel infini de notre continent. Et vous aussi, laissez un message sur le compte WhatsApp d'Alors on dit quoi au 33 647 740 742. Présentez-vous avec votre nom et prénom, définissez-vous en trois mots-clés, adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés, et expliquez-nous votre vision de l'Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors on dit quoi ? Dit stop aux infox qui circulent partout sur Internet. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique en collaboration avec l'école de journalisme EGICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Tchèque. Hello Valdez.
Bonjour Diara.
Alors Valdez, l'objet de votre chronique de ce samedi est de répondre à une question. Le cancer tue-t-il 10 Nigérians par heure?
En tout cas, c'est ce qu'a affirmé un journaliste en santé du journal nigérian 10day. Il a ajouté qu'au moins 80 000 cas de cancer étaient diagnostiqués chaque année dans le pays.
Et ces statistiques, vous lui avez demandé d'où il les tenait?
Le journaliste a déclaré à Africa Tchèque qu'il avait obtenu la statistique auprès d'un expert avant de nous dire de nous référer également au site web de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le professeur Ima Obong Ekanem, qui dirige le registre du cancer de Calabar, l'un des 6 registres de ce genre dans le pays, a dit à Africa Tchèque que l'Atlas mondial du cancer contient les meilleures estimations nationales. Il est établi par le Centre National de Recherche sur le Cancer, le CIRC, une agence de l'Organisation Mondiale de la Santé spécialisée dans le cancer. Le dernier rapport en date est pour l'année 2012. Pour estimer les décès dus au cancer au Nigeria, le Centre National de Recherche sur le Cancer a donc combiner les informations des 3 registres membres du réseau africain de registres du cancer, ceux d'Abuja, de Ibadan et donc de Calabar. Il a ensuite utilisé un modèle basé sur les données de survie pour calculer le nombre de décès chaque année. L'agence a estimé que 71 571 Nigérians sont morts du cancer en 2012, soit un peu plus de 8 par heure.
Valdez, vous dites que le dernier rapport du CIRC, qui est apparemment la source la plus crédible en matière d'estimation des personnes mortes du cancer au Nigeria, date de 2012. Est-ce une donnée fiable?
Je vous rejoins, Diara, dans ce raisonnement et j'ajoute d'ailleurs qu'en plus du fait qu'elle date de 2012, l'étude du CIRC ne s'est appuyée que sur 3 des 6 registres du cancer que compte le Nigeria. D'ailleurs, Véronique Terras, la responsable de la communication du CIRC, a dit à Africa Tchèque que les données sur les décès par cancer ne sont pas vraiment fiables au Nigeria. Le professeur Ima Obong Ekanem a encore expliqué à Africa Tchèque que l'incertitude est en partie due au fait que le Nigeria n'applique pas les enregistrements de décès obligatoires. L'autre raison est liée aux faibles ou incomplètes données de suivi sur les patients atteints de cancer dans les registres du cancer après la sortie des hôpitaux. Et donc, certains patients ne peuvent pas être retrouvés lorsque les coordonnées qu'ils ont fournies sont erronées ou périmées. Et donc, en l'absence de données plus fiables, nous estimons, Diara, que cette affirmation selon laquelle le cancer tue 10 Nigérians par heure n'est pas prouvée.
Merci Valdez, à très vite. On écoute à présent Un jour ou l'autre du rappeur sénégalais Arsek qui fait partie du label Black T Records. Un son qui nous livre un message sur les différences et la fraternité. Je vous laisse écouter.
Hello, salut Diara et salut aux auditeurs de Alors on dit quoi? Donc le thème de cette musique, c'est une histoire entre 2 frères jumeaux qui ont été élevés par une mère seule. Les 2 ont 2 caractères différents. Donc on en a un qui emprunte le chemin des études, du travail, etc. Et l'autre malheureusement qui emprunte le mauvais chemin. Et ce, malgré qu'ils aient eu la même éducation. Donc du coup, dans le refrain, on a essayé de mettre en avant le courage de la maman qui fait face à toutes ces épreuves et qui malgré tout se bat avec courage pour affronter la vie et faire en sorte que ses 2 enfants ne manquent de rien. Du coup, on vous laisse découvrir le son pour vous donner votre avis.
C'est l'histoire de 2 frères, élevés par une femme de caractère, inséparables comme calibre et chargeur, fragilisés par l'absence d'un père. Le premier pousse à fond les études, le deuxième cherche à faire des thunes, pendant qu'il offre à sa mère un véhicule. Problème numéro d'écrou et pécule, la daronne voit flou et trop. billet avant de partir. La rue a pris le dessus pour l'arrêter, c'est trop tard.
Le temps passe mais on s'en remet pas. Tous ces beaux souvenirs, j'perds pas espoir. Un jour ou l'autre, la roue va tourner. Tu m'as jamais lâché quand j'étais pas bien. Même si j't'ai fait du mal, maman, pardonne-moi. Un jour ou l'autre, la roue va tourner.
L'un pour les études, j'aurais tout donné. Mais l'autre pour l'illégal, pourrait tout stopper. L'un pense à sa vie future, la nuit future, les révisions toute la journée. L'autre avec ses problèmes de prof, c'est dur, la proc est dure. Au star, il passerait ses journées. S'ils avaient pu remédier la cause, entre son frère et lui, il aurait rien qui les oppose. Mais pourquoi, pourquoi, y en a toujours un qui manie jamais bien les choses.
Le temps passe, mais on s'en remet pas. Tous ces beaux souvenirs, je perds pas espoir.
Bac plus 4, train de vie paradoxale. Mais le sang est lié à la vida. Sort de chez lui pour étudier. Confondé avec son frère, il fut braqué. Il a pété un bleu gars. Au final, c'était pas bon qu'ils ont buté. La mère retrouve son fils par terre. Elle a eu cette impression de tout perdre. C'est trop tard, mais on y est. Après ce bon appel, elle se met à prier.
Le temps passe, mais on s'en remet pas. Tous ces beaux souvenirs, je perds pas espoir.
Un jour ou l'autre du rappeur sénégalais Arsek.
Zing! Oh, y'en a marre! Coup de gueule! Le coup de gueule!
C'est l'heure du coup de gueule d'Alors on dit quoi? Ce samedi, Fatma a décidé de vous secouer en vous demandant de vous impliquer davantage dans la société. On l'écoute.
Voilà, je suis Fatma Waelsal, je suis étudiante, influenceuse. Je suis aussi passionnée par la musique, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aborder les thématiques qui, aujourd'hui, posent problème à la société et plus précisément aux jeunes. Mon cri de cœur, c'est sur le désengagement des jeunes. On est dans un monde où on se rend compte que les jeunes ne sont plus passionnés par ce qui se passe autour d'eux, par la politique, par les thématiques sociales. Ils ne sont plus conscients que le futur, c'est eux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes s'isolent et ne se sentent pas concernés par ce qui se passe autour d'eux? Alors, soit c'est un système qui isole les jeunes, où ils ne sentent pas qu'ils ont un droit de parole, où ils ne sentent pas que dans tous les cas, même s'ils exercent leur droit de parole, quelque chose sera fait. Comment motiver les jeunes? Comment aujourd'hui leur donner ce sens de la citoyenneté, cette envie de faire partie de la société, cette envie de faire bouger les choses? Quelle place pour les jeunes? Quel futur pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait pour eux aujourd'hui pour qu'ils puissent se sentir valorisés, pour qu'ils puissent se sentir inclus, qu'ils puissent s'exprimer? Donc mon cri de cœur, c'est sur ça. Et espérant avoir une réponse. Merci.
Si vous aussi, vous souhaitez nous adresser votre coup de gueule, eh bien c'est simple, prenez votre téléphone et envoyez-nous en vidéo votre coup de gueule que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Place à la Minute Culture d'Anna. Coucou Anna.
Bonjour Diarra.
Anna, vous avez découvert pour nous le paradis de la BD à Dakar.
Absolument, Diarra. Il s'agit de BD Passion. Alors, BD Passion est une bibliothèque de bandes dessinées qui attire aussi bien les jeunes férus de lecture que les adultes nostalgiques de leurs héros d'enfance qu'ils ne retrouvaient plus dans les étalages ou autres surfaces.
Mais c'est génial! C'est bien la première fois que j'entends parler d'une bibliothèque, d'une BD-othèque ou d'une BD-tech à Dakar, c'est bien ça?
BD-tech, en effet. Il s'agit justement de la première du genre au Sénégal. L'initiative est lancée par Mariam Sek, traductrice de profession, et Mohamed El Mansour Touré, community manager.
Et qu'est-ce qui les a motivés à réaliser ce projet?
L'idée d'ouvrir BD Passion à Dakar leur est venue en constatant qu'on ne trouvait plus vraiment de BD à Dakar. Il existe un ou deux libraires qui ont des rayons bande dessinée, mais le coût varie entre 7000 francs CFA, soit 10 euros, et 15000 francs CFA, soit 22 euros.
Donc ça reste un peu élevé pour les Sénégalais moyens.
Un peu cher en effet. C'est donc dans ce contexte qu'ils ont décidé de se lancer et d'ouvrir un lieu dédié aux bandes dessinées accessibles à tous. Brillante initiative lorsqu'on connaît l'importance de la bande dessinée, qui est une véritable porte d'entrée à la lecture, offrant des univers riches et variés, touchant les enfants aux adultes. Véritable source d'enrichissement et de découverte du monde. BD Passion a donc ouvert en septembre 2014 dans une petite pièce de la maison de Mariem, démarrant avec environ 300 ouvrages. Vivement suivi par un public de passionnés, BD Passion compte aujourd'hui plus de 3000 ouvrages et plus d'une centaine de membres. Un catalogue en ligne permet de connaître la liste de BD et livres disponibles sur le site www.bdpassion.com.
Et est-ce qu'il est possible de s'abonner à cette BDTech?
J'allais justement y venir, Diarra. Il est possible de consulter les bandes dessinées sur place et à domicile. De nombreuses formules d'abonnement mensuel sont proposées, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur le site de la BDTech. Petit plus non négligeable, Diarra, un service de livraison est même disponible afin de faciliter l'accès au catalogue à tous les abonnés n'habitant pas dans les parages.
Mais que demande le peuple, Anna? C'est formidable cette idée.
En effet. Désormais située dans le quartier de la VDN, dans un espace plus grand et plus accueillant, cette bibliothèque s'est enrichie d'un club de jeux de société. Les enfants, tout comme les adultes, peuvent y venir pour jouer à des jeux de société, jeux de rôle, jeux de lettres, plus de 100 autres jeux de table et de stratégie. On ne peut que se réjouir de la création de cet espace culturel, véritable lieu de rencontre et de partage entre passionnés de la BD.
Merci Yana.
Merci Yara.
Samedi prochain, Alors on dit quoi rejoint les auditeurs du Mali. On sera à Bamako pour une émission spéciale où on parlera d'entrepreneuriat, des difficultés, mais aussi des clés de réussite. D'ici là, restez connectés. On peut toujours communiquer via les réseaux sociaux. Vous connaissez notre page Facebook Alors on dit quoi, notre Twitter et notre Insta. Vous n'avez plus qu'à envoyer vos commentaires, recommandations et suggestions. N'oubliez pas aussi de nous laisser un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742. Merci également à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Dibril et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence, sur RFI. Salut, Rangongol, à bientôt.